fort pour la voûte centrale. Hein, donc, vous avez, pas la voûte, la nef centrale, la voûte en berceau. Donc, voilà quelques. Et là, on voit encore, comme je vous l'ai dit, hein, la structure de cette église assez remarquable. Alors ça, on avait vu. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est où que le regard se pose, on retrouve le même principe. Ça, c'est quelque chose de très albertien, on va dire. C'est une théorie qui est édictée très clairement, alors noir sur blanc, théorisée, pensée, notamment à la Renaissance, c'est la question de la partie et du tout. C'est que un corps est constitué de parties, mais chacune de ces parties obéit au même principe que le corps en général. Hein? Alors, c'est un truc tout bête, on parlait de fractal l'autre jour, on peut parler aussi des hologrammes dans lesquels une toute petite partie permet de tout voir, etc. Ou même maintenant, quelque part, on a la confirmation de cette espèce de théorie avec les principes génétiques, où dans le gène, on a quasiment toute la personne. Donc, si vous voulez, cette idée que dans chaque partie, on va retrouver la logique qui prévaut à l'ensemble, c'est aussi l'idée de l'harmonie. L'harmonie, c'est un mot grec qui va être vraiment repensé à la Renaissance, c'est l'articulation. Hein, je crois que, étymologiquement, harmonie, c'est une charnière. C'est un gond, en fait, si vous voulez. C'est une pièce qui relie deux parties. Les deux parties séparées ne peuvent rien. Ensemble, avec le bon articulation, elles font un système. Et ça fait un corps. Et les deux parties, quand elles peuvent fonctionner ensemble, c'est l'harmonie. Donc, d'une manière plus générale, un bâtiment aussi doit être harmonieux, c'est-à-dire toutes les parties doivent fonctionner ensemble, sont les mêmes principes. Donc on va retrouver toujours cercle et carré. Hein, la voûte est effectivement, si on regarde en section, c'est un demi-cercle, mais si on la regarde de dessous, elle est construite avec une multitude de caissons qui sont carrés, qui permettent de soutenir une voûte, une coupole, mais qui elle-même s'appuie, effectivement s'inscrit dans un carré, etc., etc. Donc vous avez toujours une sorte d'articulation permanente entre cercle carré, puis plan, élévation, qui constitue aussi la beauté de l'édifice. Donc partout, vous trouvez toujours la confirmation de cette une des harmonies qui va les fasciner jusqu'à essayer de trouver la quadrature du cercle. Alors la quadrature du cercle, je ne sais pas si évident que ça, mais c'est, je crois que pour ces personnes-là, c'était trouver la surface exactement équivalente entre un cercle et un carré. Et c'était quasiment un défi impossible en termes de nombre entier, il n'y avait pas de décimal. Et donc là, on était dans cette idée de pouvoir résoudre cette question. Alors par contre, intégrer le cercle dans le carré dans le cercle, ou appuyer le cercle sur le carré, ce sont des choses là qui sont, mais qui va être une sorte d'obsession, c'est presque une sorte de clé de la Renaissance, et on le voit très clairement dans l'architecture, où que le regard se pose. Hein. Donc en plan, en volume, hein, dans le détail, comme par exemple ici, où là, alors là, le photographe, je ne sais pas qui a fait, mais c'est des très bonnes photos qui disent bien tout cela. Alors, un des intérêts aussi de ces principes géométriques, c'est que ça tente à relativiser progressivement tout ce qui est décor peint ou peinture, parce que si vous voulez, la beauté vient des rythmes et des proportions. Elle ne vient pas forcément des fresques ou des vitraux, elle ne vient plus de ça. Elle se suffrait presque à elle-même, cette structure mathématique. Parce que c'est déjà, rappelez-vous aussi, cercle et carré, l'unité du monde, de l'unité de la sphère et des formes circulaires qui sont divines, et du monde construit carré, orthogonal, qui relie le ciel à la terre et qui est en même temps le monde construit. Alors, on verra plus tard, ils vont théoriser même l'idée qu'il y a le monde sublunaire, qui est sous la lune, donc qui est en gros qui est le monde déthérien, et le monde céleste qui lui est au-dessus de la lune, qui est le monde vraiment céleste, l'univers de Dieu. Et l'articulation entre les deux, c'est justement le rapprochement du monde sublunaire et du monde céleste, c'est ça aussi qui constitue un des enjeux de l'humanité à ce moment-là catholique, et les temples chrétiens sont la rencontre aussi entre ces deux mondes. Hein, et cercle et carré, donc, c'est pas juste des formes, c'est aussi un sens. Ce qui fait qu'il n'y a plus forcément besoin de multiplier les peintures, les fresques, etc., qui sont un petit peu reléguées, d'ailleurs, qui perdent un peu en autonomie, hein, tout ce qui est peinture, etc., elles sont là, mais la beauté essentielle vient du monument lui-même. Et donc voilà, on est arrivé au porche. Et là, voilà d'autres photos un peu plus différentes. Sur le travail sur la lumière. Bon, je passe, là encore. Alors, il y a l'idée aussi monumentale, évidemment, mais un monument qui donne à penser, Et voilà. Alors, j'ai trouvé plusieurs photos pour que vous ayez. Alors, ça, c'est des photos avant la rénovation. Donc, c'était très gris. Une fois que les fresques ont été nettoyées, bon, il y a beaucoup d'églises qu'on voit comme ça, même Notre-Dame, vous vous souvenez toutes de l'avoir vue toute grise et sombre, comme beaucoup d'églises. Maintenant, on se rend compte que c'est surtout nos fumées et nos pollutions, mais que de ce temps-là, c'était beaucoup plus clair, etc. Alors, bon, voilà, le mieux, c'est d'y aller. Hein. Alors, voilà ce que ça donne. D'ailleurs, là, vous avez deux photos. Hein, une ancienne, mais qui est en, ça, c'est en couleur. Hein. Et là, rénovée. Là, et vous voyez, ce que je vous dis, c'est que les peintures deviennent une sorte de d'animation, mais elles n'ont pas une vocation centrale. On s'éloigne un petit peu de l'anecdote aussi, de la narration. Si vous voulez, pour Giotto et les autres, il fallait vraiment rapprocher la religion pour qu'on puisse s'identifier aux histoires qui étaient racontées. Là, on s'adresse plus à l'intellect. C'est en ce sens-là aussi que c'est important à la Renaissance, c'est que le message essentiel, c'est presque un message théorique et conceptuel. Hein, plus que l'histoire de Jésus. D'ailleurs, le plan en croix est relatif. Vous avez peu de sculptures, il y a peu de dorures. On est dans une grande sobriété qui caractérise très bien aussi cette Renaissance intellectuelle qui s'écarte un petit peu, si vous voulez, de la storia, de l'histoire, des anecdotes autour du christianisme. Donc, le souci principal, c'est plus celui-ci. Alors, juste voilà quelques dessins et principes inspirés d'Alberti. La fameuse damier, hein, la mise au carreau, les élévations en verticale qui permettent aussi d'avoir des proportions conservées. Alors, la conservation, alors la perspective aussi permet de conserver les proportions, donc conserver l'harmonie, y compris quand ça s'éloigne. Ça veut dire que même si on s'éloigne du premier plan, on conserve les mêmes lois et les mêmes logiques. Donc là, il y a aussi, dans la perspective, il y a une beauté qui est Thalès, hein, de préserver les proportions. Et donc, ça veut dire qu'on peut s'éloigner de l'instant T, enfin de l'immédiat, pour se projeter tout en sans se perdre. Puisque aussi loin que l'on regarde, on est toujours dans les mêmes harmonies, les mêmes proportions. Ça, c'est une notion aussi essentielle, la proportion. On a vu le cercle carré, mais proche, lointain. Préserver les proportions, ça veut dire qu'on peut regarder loin. Et comme je vous disais, le vide, c'était une chose qui, dans les temps, on va dire, médiévaux, était plutôt anxiogène, parce que de quoi c'est fait, on s'y perd, plus on regarde loin. Là, grâce à la perspective, on peut regarder loin. Alors, le fait de regarder loin, ça sera aussi l'idée du projet, comme dit l'autre, mais on y reviendra. Alors, vous avez vu que Alberti a très bien conçu l'idée des points de distance, mais il appelle ça aussi la pyramide visuelle qui part des rayons de l'œil pour aller vers le monde. Hein. Alors, voilà d'autres séquences. Alors, ça, ce sont d'autres constructions d'Alberti, comme par exemple ce cloître. Alors, on verra, ça, c'est vraiment une sorte de modèle qu'on va retrouver assez souvent. Ces cloîtres très légers, avec, effectivement, on en retrouve un carré et un cercle qui s'inscrit, qui s'appuie sur le carré dans ces cloîtres. Ça, c'est clair aussi. Alors, le cloître, c'est un truc tout bête, mais c'est aussi le monde construit, mais qui va s'ouvrir vers le ciel pour les moines. C'est à la fois on est dans l'église et en même temps on est ouvert vers le ciel. Donc ce rapport aussi, le plan carré du cloître, là cette fois-ci c'est la voûte céleste, hein, il n'y a pas une voûte construite, mais c'est un lieu de prière dans lequel on va. Donc c'est une mise en relation. Une mise en relation et l'architecture est conçue vraiment comme ça. Alors en architecture chrétienne on l'a vu et on verra. Alors juste, j'ai trouvé des choses, mais c'est un truc très obscur. On sait que Alberti a écrit aussi un texte qui s'appelle L'Hypnerotomachia Polyphilie. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Tu vois, je crois que c'est sur. C'est un texte poétique et symbolique sur. Hypnerotomachia Polyphilie. Je ne sais plus ce que ça veut dire. Tu vois, c'est une sorte de texte. Alors, de grande érudition, mais essentiellement dans le symbole autour d'une quête philosophique et des songes. L'idée que les songes rapprocheraient tout de même du divin. Donc, par contre, il y a quelques versions, mais Bon, voilà, c'est tout ce que je sais de lui. J'ai essayé de trouver des romans, je ne peux pas vous dire, je dirais des bêtises, donc je ne sais pas ce que c'est ce truc. Voilà. Mais en tout cas, c'est une sorte. Alors, c'est pas alchimique, c'est pas. Mais on est alors dans une quête d'érudition. On verra plus tard l'érudition, ce qu'elle peut avoir aussi comme une sorte de piège. On verra ça avec surtout le maniérisme. Donc Alberti, donc ça c'était juste pour montrer d'autres de ses activités, plus du côté du symbolique. Hein, et voilà. Alors, Alberti en même temps n'est pas né, il ne sort pas de rien, évidemment. Hein, y a des monuments en Italie, il y en a beaucoup depuis toujours. Alors je vais vous montrer ici une sorte de petit panorama sur un peu l'héritage visuel et architectural que pouvait avoir quelqu'un comme Alberti. Et on va se rendre compte qu'il y a des choses qui. Et c'est assez unique à l'Italie. En France, par exemple, on n'a pas ça. Les invasions, l'éclatement du territoire des Francs ou des Gaulois a brisé un certain nombre de choses, plus les temps gothiques, les influences nordiques, les influences saxonnes, ont fait que on a une rupture de continuité au niveau du territoire et des styles, et même de l'occupation des territoires en France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais dire un petit peu qu'il y avait tous les territoires romans, pré-romans, qui étaient des chemins, surtout dans les campagnes. L'occupation du territoire des villes avec la période gothique. Mais si on remontait encore un peu plus loin, vous aviez l'occupation romaine, c'était surtout aussi les grandes villes. Mais l'occupation gauloise, c'était plus les campagnes. Donc si vous voulez, vous avez des. Et puis, vous avez des choses en France qui sont assez marrantes au niveau du paysage. Les temps de conflit, on va retrouver plutôt des occupations des collines, et puis les temps de paix, on va retrouver dans la plaine. Donc vous avez aussi une logique un peu plus complexe dans les répartitions du territoire en France, sans compter les vecteurs régionaux et les fractionnements aussi religieux. En Italie, il y a une continuité très ancienne, et d'ailleurs qui remonte même à la fondation de Rome, et qui s'articule avec le christianisme. Alors, autre chose quand même à propos de Rome, le véritable renouveau architectural et spirituel, c'est plus à Florence et Venise. Rappelez-vous que Rome, à la Renaissance, c'est mythique, mais il n'y a rien. Il n'y a quasiment rien. Il y a le pape, il y a le Vatican, il y a quelques palais, quelques églises, mais en termes d'habitation, c'est une ville symbole, c'est une ville phare, mais ce n'est pas du tout une ville avec une puissance économique. Donc la plupart des constructions de la Renaissance qu'on va voir, c'est beaucoup plus le nord de l'Italie, puis quand même autour de Rome, etc. Par contre, à Rome, il y a ces vestiges. Hein, ces vestiges qui sont très importants. Et alors, l'un des plus connus, sont les arcs de triomphe, évidemment, dont j'ai parlé quand on a vu Trajan. Ça, c'est l'arc de Titus. Ça, c'est l'arc de Trajan. Ça, c'est un arc de Septimius. Alors, j'ai agrandi, mais ce n'est pas de bonne qualité. Hein. Et on y reviendra un peu. Là, vous avez l'arc de Septime Sévère à Leptismania, donc en Libye actuelle, ce qu'on appelle la Tripolitaine. Là, vous avez un dessin relevé, relevé récent, sur l'arc de Septime Sévère. Là, vous avez l'arc d'Auguste à Rimini, etc. Alors, on voit pas mal de choses ici. Vraiment, on voit que en fait, c'est en briques. Ça, c'est assez typique des Romains. La construction romaine, elle est presque toujours en briques, rappelez-vous. Et ce sont des parements de marbre qui cachent et qui font du décor. Et ce décor, il est quand même savant. Il s'inspire des modèles grecs, les architraves, les colonnes, les chapiteaux doriques, ioniques, corinthiens, et puis même les tympans. Mais ça ne correspond à aucune nécessité architecturale. Donc, dans la tradition romaine, le décor de marbre, ou même la forme de l'arc, si vous voulez, ce n'est pas une obligation de structure, puisque les arcs sont en briques, en fait, en briques et en béton. Ils sont en briques et en béton. Hein, il y a eu, l'autre jour, il y avait un article dans Le Monde sur le béton romain, qui était d'une qualité prodigieuse. Alors, je ne sais plus, il y a une archéologie scientifique des matériaux, et on est en train de recomprendre comment et quel type de matériaux ils utilisaient, notamment pour le béton romain. Je crois que c'était une poudre de pierre de lave qui était beaucoup plus solide, poreuse, et en plus qui se solidifiait et qui avait une qualité de résistance assez incroyable. Donc, il y a des vraies techniques. Hein, donc, le béton, effectivement, c'est des cailloux, du ciment. Plus, autour, on met de la brique, et par-dessus, on met le marbre. Et donc, si vous enlevez le marbre, et bien l'arc tiendra toujours. Alors, juste une chose aussi, au niveau de la continuité de Rome et du modèle romain dans la tradition chrétienne, c'est drôle d'ailleurs ça aussi, parce que moi je ne savais pas, j'en parle depuis longtemps de ces trucs-là, mais je lisais les vies parallèles de machin, Plutarque, enfin, je commençais à lire, et je lisais l'histoire de Rémus Romulus, et dans l'histoire de la fondation de Rome, on apprend que Romulus est tué, que son corps disparaît, qu'il monte au ciel, et qu'il réapparaît à un de ses disciples, et il lui dit « Je te réapparais, et ensuite je vais repartir au ciel, enlevé par Mars, mais à partir de tu témoigneras auprès de mes disciples, et tu construiras une cité qui rayonnera sur le monde. » Donc Romulus se transforme en Quirinus, qui a donné le Quirinal à Rome, et donc Romulus, un des fondateurs de Rome, se trouve, et ça c'est 700 ans avant Jésus-Christ, avec déjà l'idée de mort, martyr, résurrection, monté au ciel, fondateur d'une cité réelle qui rayonne sur le monde, et voilà. Donc si vous voulez, la tradition de Rome de rayonner sur le monde, cette idée aussi d'un mortel qui monte au ciel, donc c'est quelque chose qui, on comprend très facilement comment vient se greffer sur une mythologie et sur un mythe romain, le mythe chrétien, qui tout d'un coup est une sorte de décalque. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai jamais trouvé ces explications en français, qu'en anglais. Comme si en France, on n'avait pas envie de... c'était un peu blasphématoire que de dire au secours, l'histoire de Jésus, c'est calqué sur... J'ai trouvé des sites anglais, mais je vous assure, j'ai fouillé, alors peut-être qu'il faut trouver, mais j'ai trouvé aucun texte français sur Wikipédia, même machin. Alors, Wikipédia, c'est pas forcément le plus, mais même des vieilles archives, je n'ai rien trouvé en français là-dessus. Donc, je pense qu'on est encore hein, avec des... Chaque chose à sa place. Hein, il y a l'histoire de Rome, l'histoire chrétienne est séparée. Alors que, voilà, ça explique aussi sans doute une continuité à la fois dans l'espace et le temps, y compris dans les formes, hein, et dans cette espèce de monumentalité et la notion de la cité aussi. L'importance de la ville et la cité réelle et la cité symbolique qui doit rayonner, etc. Et Rome, devenant la capitale ensuite de l'Empire chrétien, qui détrône Constantinople, c'est assez logique aussi. Alors, on trouve ces modèles-là. Alors, est-ce que, c'est marrant, est-ce que les chrétiens romains du 15e siècle de la Renaissance ont fait le lien ou pas, ou c'était imprégné, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui se calquent sur des vieux mythes. Hein. Marie et Jésus, ça peut être aussi Isis Lactance, Jésus c'est une sorte d'Horus, mais aussi une sorte de Romulus. Donc, si vous voulez, voilà un peu les idées. Alors, donc, voilà les arcs. Hein, et on comprend bien aussi comment ces arcs-là, alors ça c'est un arc de Trajan à Ancône, hein, là c'est un temple romain, hein, c'est qui est sur le forum, mais qui a été christianisé au XVIIe siècle, hein, donc on voit aussi qu'il y a quelque chose d'assez facile, le Panthéon qui est ensuite devenu une église aussi, hein, donc assez vite il y a une transposition. Alors le Panthéon, vous savez que c'est le seul bâtiment romain encore entier, enfin qui n'a jamais été détruit, avant Adrien, enfin, il a été conçu par Agrippa, c'est Adrien qui l'a reconstitué, mais Adrien étant un empereur philosophe relativement éclairé, n'a pas mis son nom, il a laissé Agrippa, alors qu'en fait c'était une reconstruction. Mais on voit bien, alors vous avez ici quelque chose qui sera fondamental, on le voit dans les Arcs de Triomphe, on le voit aussi dans le Panthéon, c'est quand même toujours aussi un dialogue orthogonalité et cercle. Hein, cercle, orthogonalité, ça c'est très clair, comme on le voit ici. Alors, la coupole du Panthéon est sur une sorte de cylindre, hein, on y reviendra, et voilà. Alors, le Panthéon, alors ça c'est un modèle du Panthéon, c'est pas le Panthéon. Voilà le Panthéon de l'intérieur, dans lequel vous avez effectivement une coupole à caissons, hein, qui se tient toute seule avec des nervures qui convergent vers un oculus qui est au-dessus, là, qui est totalement ouvert, vous l'avez vu, et puis des parallèles, hein, concentriques évidemment, qui vont former la structure de cette coupole exceptionnelle. Le décor est plus récent et va être transformé en église, hein, mais c'était un panthéon donc romain, des cultures romaines. Et c'est, je sais pas, sans doute vous y êtes allé, vous savez que c'est entièrement ouvert sur le ciel, c'est-à-dire qu'il peut pleuvoir dans le panthéon, le soleil arrive, et une seule ouverture éclaire tout. Hein. Mais là aussi, vous avez une articulation remarquable entre les verticales qui servent de base à la demi-sphère qui, elle, ouvre vers le ciel. Donc là encore, vous avez des articulations, des logiques qui vont très longtemps servir de modèle. Alors voilà une coupe du Panthéon. Hein, et si vous faites le cercle parfait, effectivement, la coupole est un cercle parfait qui s'inscrit dans un carré parfait là encore. Donc là, on retrouve ces harmonies. Donc c'est un des modèles qui a longtemps été inégalé. D'abord parce qu'il ne savait plus faire des coupoles comme ça. Il ne savait pas, elle se cassait la figure, elle ne tenait pas. Il y avait un problème assez sérieux de structure et de continuité. C'est quelque chose qui est vite dans les manuels. Hein, la beauté justement des monuments romains est étudiée par quelqu'un comme Alberti, Vitruve, puis d'autres. Ce sont des modèles, donc très clairement ils y font référence. C'est pas uniquement des curiosités du passé, c'est une ouverture sur ce passé, sur l'architecture, qui combine ensuite, qui est devenue encore plus licite, si vous voulez, avec l'ouverture philosophique, puisque les penseurs gréco-romains comme Platon et Aristote, qui ont circulé effectivement dans les manuscrits en termes d'idées, eh bien, font qu'il y a une réhabilitation aussi du passé, un passé qui n'était peut-être pas chrétien, mais qui était christiano-compatible. Platon et Aristote sont christiano-compatibles, et on se rend compte aussi que finalement la tradition romaine, avec par exemple Romulus, hein, même certains mythes romains peuvent être transformés. Alors les chrétiens vont dire qu'ils ne sont pas transformés, en fait ils anticipaient. C'était des signes annonciateurs du christianisme. Donc pour certains chrétiens, ils vont dire non, mais ils n'étaient pas dans l'erreur. C'est qu'en fait, Dieu existait bien entendu avant. Et donc avait envoyé des signes annonciateurs. Et par exemple, Platon et Aristote, ils n'étaient peut-être pas chrétiens, mais en fait, ils avaient sans doute été envoyés par Dieu pour déjà faire réfléchir. Et donc il y a pas mal de choses qui étaient tous les prophètes, les sibylles qu'on trouvait dans la chapelle Sixtine, tous ceux qui sont avant Jésus, sont considérés comme des signes annonciateurs. Mais ça permet aussi d'intégrer le passé architectural, le passé culturel, parce qu'on se dit, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un passé dont on va se débarrasser, ce n'est pas un passé qu'il faut faire passer, c'est un passé qu'il faut retenir. Par exemple, l'arc de Constantin qui est le premier empereur qui officialise l'Empire chrétien, et bien fait effectivement un arc de triomphe là, qui est près du Colisée, sur lequel, effectivement, cette fois-ci, c'est un arc de triomphe christianisé. Donc là, on est en 330 à peu près après J.C. Donc vous avez là, on voit bien que la transition en fait, se fait assez naturellement dans la Rome antique. Alors il y a aussi des monuments qui sont des sortes de pieds de nez aux architectes en permanence. C'est les sublimes voûtes des basiliques qui sont d'autant plus stupéfiantes que là, c'est juste les bas-côtés. Ce sont les bas-côtés des basiliques romaines. Et là, vous avez donc un génie de la construction en briques qui devait être recouverte de stuc et de marbre et de peinture. Mais vous avez donc là les modèles qui sont sous le nez des Italiens. Voilà la basilique de Maxence, là encore, avec toujours aussi le principe des caissons, hein, qui est un principe très intéressant de structure pour le recouvrement. On fait d'abord les nervures, si vous voulez, puis après on bouche entre les nervures avec d'autres matériaux ou le même matériau. Alors ces modèles-là sont des modèles qu'ils ont sous le nez en permanence, grandioses et merveilleux. Et alors, à partir du moment où la tradition, l'Italie, on va dire catholique, se reconstitue, une fois qu'elle a rétabli des modèles de pensée, toute une véritable armée de moines et de théoriciens et de différentes transmetteurs de la foi. On a vu l'importance des ordres monastiques, qu'elle a une hiérarchie constituée, et bien de toute façon, la tradition catholique se rappelle qu'elle est calquée aussi sur l'Empire romain. Le pape est comme un empereur, les préfets sont comme des cardinaux et des évêques, les curés comme des gouverneurs, etc. Vous avez une sorte de calque de l'Empire catholique qui se calque sur l'Empire romain. Et donc, la volonté de grandeur aussi, de maîtrise du territoire, de maîtrise de l'architecture, de maîtrise des lieux, de maîtrise des apparences, font qu'on va retrouver très clairement les mêmes soucis. Donc, non seulement ce sont des grands ancêtres, mais ça devient des modèles qu'il faut vraiment essayer de rattraper. Il faut rattraper ce modèle-là, parce que sinon, on est mal. Alors, les premières et les plus anciennes églises chrétiennes romaines qui restent, du 5e, 6e, 7e siècle, alors, elles sont plus modestes. Elles sont plus modestes parce que, d'abord, l'Empire romain commence à se fissurer. Vous avez des guerres entre d'abord les deux empereurs, Constantin Maxence, puis après vous avez tétrarchie, hein, où il y a les quatre empereurs, puis enfin trois empereurs, donc il y a des rivalités, des divisions, des guerres entre eux, puis ensuite toutes les invasions dont on a déjà parlé, les Goths, les Visigoths, les Alains, les Burgondes, les Huns, etc., toutes ces choses-là vont fractionner, etc. Donc ce qui reste de christianisme va s'exprimer dans des bâtiments tout d'un coup plus modestes. Le dernier grand bâtiment chrétien monumental qui a l'ampleur romaine, c'est Sainte-Sophie à Constantinople, évidemment. Alors, à Rome, on va avoir des petits bâtiments qui sont quand même intéressants, qui sont souvent sur un plan rond, donc on va quand même reprendre le modèle du Panthéon, avec des frontons qui, à l'époque, à l'origine, devaient certainement être parés de marbre ou de stuc, et celle-ci, elle s'appelle Sainte-Constance. Alors d'abord, on est toujours dans la tradition constantine, hein, donc à Rome. Alors il faut savoir quand même effectivement que le plus important centre dans le 4e, 5e, 6e siècle, c'était pas Rome, ça restait Constantinople. Donc Rome était encore essayé de se faire une place dans l'Empire romain chrétien. Donc voilà, toujours Sainte-Constance, avec une sorte de fronton, un tympan et une coupole. Alors cette fois-ci, enfin, pas une coupole, mais un bâtiment, on va dire, cylindrique, que l'on voit ici. Là, vous avez vu. Alors, ils sont souvent à l'extérieur de Rome. Ils ne sont pas au cœur de la cité, parce que c'était des quartiers plus périphériques. Alors voilà, j'ai retrouvé certains. Là, ceci dit, de l'intérieur, vous avez ces petits bâtiments qui ne payent pas de mine de l'extérieur, parce que c'est une structure en briques, mais ont des jeux de lumière intéressants qui sont très beaux. Alors, ce qui est par contre assez remarquable, si vous voulez aussi, dans les architectures romaines chrétiennes, on dit parfois paléo-chrétien, c'est les premiers chrétiens, etc. C'est que c'est plus des plans centrés que des plans en croix. Le plan en croix viendra plus avec l'âge roman, avec cette idée du modèle du Jésus martyr, etc. La tradition byzantine, Constantinople ou pré-romane, c'est plus soit des baptistères, soit des mausolées qui sont à plan central. Le plan central étant une sorte de communication directe avec le Dieu, par le baptême, la mort, communication directement verticale, alors qu'on a vu que le modèle roman, c'était un modèle plus initiatique, hein, de reconquête d'une population. Là, on est beaucoup plus dans une sorte d'assemblée, hein, ce qui fait qu'on va voir aussi le modèle des baptistères. Alors, que ce soit les petites églises comme celle-ci, hein, voilà, à l'extérieur, celle-ci aussi, alors celle-ci, attendez, parce que je n'ai pas de mémoire récente, ça c'est à Nocera, alors c'est dans des petites villes, mais vous avez aussi, on appelle ça un tambour. Hein, là, vous avez un tambour plus petit, et en fait, vous avez une voûte en bois. Enfin, le couvrement est en bois. Et vous avez quand même une avancée, c'est une sorte de modèle reculé du Panthéon, c'est cette idée d'avancée, de porche, hein, qui évoque aussi le Panthéon comme une entrée. Alors, voilà un autre modèle. Celui-ci, Saint-André, mais cette fois-ci, c'est Ponte Mole, je ne sais pas où c'est. J'ai trouvé des documents de ce type-là. Voilà un autre petit baptistère, je vais y revenir, à Biella. Alors justement, un autre modèle des petites églises rondes, c'est le baptistère. Mais en fait, c'est toujours des plans centrés. C'est toujours le principe, justement, d'un espace au sol qui est homogène, souvent circulaire, justement, qui s'élève à la verticale, hein, donc avec le cercle encore et la verticale. Donc c'est une combinaison aussi de la circularité et de l'orthogonalité. Et puis, voilà, alors le baptême, c'est aussi, cette fois-ci, l'introduction. On est plongé dans les fonds baptistaux, tout d'un coup, on est en communication directe, on fait partie de l'Église. Donc les baptistères en Italie ont beaucoup plus d'importance qu'en France, où la christianisation se refera plus tard sur un autre mode, surtout romain. Hein. Alors voilà un autre baptistère, c'est de San Giovanni Ascoli. Alors, je ne sais pas où c'est, j'ai trouvé ça en cherchant. Alors, il y a un modèle qui est intéressant, comment combiner le cercle et le carré. Par exemple, c'est hexagone et octogone. Hein, l'idée de pan coupé peut permettre aussi de faire une construction qui est intéressante et qui permet d'articuler les deux, avec ici, vous avez vu quand même des arcades qui ne servent à rien, mais qui ont un motif décoratif et qui rappellent quand même le dialogue du cercle et du carré. Voilà un autre baptistère. Alors celui-ci est à Padoue. Alors l'autre jour, je vous l'ai montré. Et en fait, c'est bien le baptistère de Padoue qui est entièrement peint. C'est pas celui de Mantoue. C'est celui-ci qui est entièrement peint par ce peintre extraordinaire qui est d'influence giottesque. Alors vous voyez bien effectivement, hein, une section carrée et un tambour cylindrique. Ça, c'est celui du Latran, San Giovanni Latran, donc à Rome. Là encore, pan coupé, cylindre. Alors, le petit cylindre dessus permet effectivement de faire aussi rentrer une lumière plus centrale, comme on appelle ça on verra la, comment c'est repris. Ça, c'est celui, la petite rotonde de Saint-Laurent de Mantoue. Alors, pour la petite histoire, elle a été redécouverte au début du XXe siècle, parce qu'elle avait été entièrement entourée de maisons, on avait oublié qu'elle existait. Et c'est presque en faisant des... Elle était occupée, fractionnée, etc. En déblayant des trucs qui sont des waouh. Et une rotonde absolument magnifique. Et à l'intérieur, c'est une lumière prodigieuse. Parce que ça a l'air petit, en fait, c'est plus grand que ce qu'on croit. Voilà l'intérieur. Hein, donc, des bâtiments qui sont aussi assez remarquables. Et avec, là encore, un sens de la construction. Alors, celui-ci, c'est Baptistère de Crémone. Alors là, ce que je vais montrer, c'était temps pré-roman. Roman, enfin, ce qui correspond au roman et au pré-roman en France, mais en Italie, ça n'a pas tellement de sens. Parce qu'en fait, vous avez une continuité. Vous avez une continuité, il y a quelques évolutions, et on va voir que même, ça c'est une période, on va dire, plus ou moins gothique, mais si vous voulez, on n'a pas du tout, on est donc au 12e, 13e siècle, on a quelque chose qui, à part certains petits détails, comme les galeries ici qui vont aérer un petit peu le monument, hein, on a quelque chose ici qui reste toujours sur le même principe. Ça, c'est le baptistère de Pistoia, un plan hexagonal, avec ici, vous avez vu, on peut dire... Pourquoi ça ne zoome pas, là ? Ben, ça va zoomer. Il ne veut pas zoomer. Non, ben, c'est pas grave. Vous avez ce qu'on appelle les pinacles ici, le petit clocheton ici, même ici sur les petites arcades, que l'on voit aussi sur le porche, mais ça ne sert à rien. Alors que dans la vraie architecture gothique, rappelez-vous que le pinacle est une fonction de structure, de poids et de masse, là c'est juste un élément décoratif. Alors que finalement le plan reste le même. C'est ce que je voulais vous montrer, c'est la continuité en Italie, y compris des plans, des monuments et des principes de construction. Donc ce sont des variations, mais qui sont assez légères. Alors, on va dire qu'il y a des effets de mode, par exemple le truc bicolore, celui de Florence, y compris... Alors là, il est absolument remarquable, puisqu'il servira de modèle. Et là, vous voyez une coupe. Le voilà. Et là, justement, vous voyez ce que j'en ai déjà parlé, la continuité en Italie de l'architecture, c'est que le baptistère, il est quasiment presque pré-roman, hein, il est ancien. Le campanile est de Giotto, donc il est du XIIIe siècle. Et la cathédrale ici est Renaissance, puisque le dôme est de Brunelleschi, justement du XVe siècle. Et vous voyez qu'il n'y a pas de rupture stylistique, en fait. Il y a des petites nuances de proportions, des petits codes de décor qui sont un peu différents. Parce que là, si vous voulez, vous avez effectivement des arcs pleins cintres, alors qu'ici, ce sont plutôt des arcs brisés, avec quelques pinacles, et puis vous avez les baies ouvrées, là, tandis qu'ici, on est encore dans le cercle carré, et à la Renaissance, on retrouve une sorte de combinaison des deux, etc. Et puis tout cela fait un ensemble parfaitement cohérent. Donc, et jamais ils ont détruit l'œuvre précédente. Alors qu'en France, une église pré-romane était détruite plus ou moins romane. Sur la romane, on la virait, on faisait une gothique. Et sur la gothique, on virait la façade. On a fait des façades néoclassiques, puis des façades de baroque un petit peu, etc. Puis ensuite, on est revenu. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du tout la même logique. En Italie, il y a l'idée quand même d'une continuité. Et la continuité italienne, elle est beaucoup sur le mur. Elle est beaucoup sur le mur et la muralité. Alors voilà le baptistère de Florence vu. Ben de Santa Maria Novella. Là, je crois que c'est justement cette Santa... Non, ça, c'est Santa Maria Novella. C'est Santa Maria des Fleurs. Hein. Voilà. Alors, celui-ci, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure. Celui-ci, alors, j'ai trouvé par hasard, je suis tombé dessus. Je ne connaissais pas du tout. Certains connaissent celui-là ? À Parme. Alors, c'est pour ça que je vais dire en Italie, il faut y aller presque les yeux fermés, parce que... Enfin, les ouvrir de temps en temps, mais il ne faut pas anticiper son voyage, parce que c'est en cherchant sur les baptistères, je vois ce truc-là, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment sublime ? C'est à Parme, donc on est dans le nord de l'Italie. Alors là, c'est un baptistère, on va dire, gothique, hein, c'est la période gothique, et il est prodigieux, parce qu'on a toujours le plan hexagonal, on va trouver les clochetons, les pinacles, qui sont une petite citation gothique, et puis en même temps un porche roman, et puis là, des galeries ouvertes. Et on voit bien que du baptistère, c'est plus qu'un baptistère, ça devient quasiment une sorte de monument religieux, mais beaucoup plus ambitieux, etc., qui devient presque une véritable sorte de temple qui trône dans la ville et qui est tout un art aussi de proportion et d'harmonie, hein, puisque les octogones, les hexagones, tous les nombres remarquables sont, font partie de la beauté des bâtiments. Alors le voilà dans son ensemble. Rappelez-vous qu'en Italie, il y a toujours la nef, le campanile et le baptistère sont dissociés. Hein, ça aussi, c'est chez une fonction, à chaque fois, vous avez cette idée de trinité et de trois fonctions différentes. Et là, c'est l'intérieur du baptistère de Parme, hein, dans lequel on a effectivement quelque chose qui va bien au-delà du simple lieu de baptême. Là encore. Et voilà quelques fresques. Alors, les fresques, c'est sans doute un bâtiment qui a eu aussi plusieurs époques, qui a peut-être commencé période, on va dire, pré-romane, et qui a peut-être été surélevé, hein, jusqu'à en faire un monument presque à part entière et homogène. Alors, vous imaginez bien, alors voilà encore quelques détails, Pise, évidemment, tout l'ensemble du Campo Santo de Pise, qui, lui, là encore, vous avez une dissociation des bâtiments, hein, puisque vous avez le dôme, enfin, la basilique centrale, qui, elle, est de type roman. Vous avez ici un baptistère qui est de type gothique, et effectivement, la tour aussi, qui est là, vous savez qu'elle a penché, puis on l'a redressée à la fin, elle a commencé à pencher, le sommet est horizontal, parce qu'elle a penché pendant sa construction. Et là, vous avez donc encore un très bel ensemble, où les trois fonctions sont très bien dissociées. Alors, ça, c'est l'église de Sienne, la cathédrale gothique de Sienne. Alors là, le plan, quand vous la regardez de face, vous avez effectivement un vocabulaire gothique très clair, mais si on regarde de côté, on se retrouve avec des murs de base. Donc celui-là, en Italie, la muralité, alors qu'une église gothique à la française, vous aurez au contraire des grandes ouvertures, des colonnettes, et avec le principe des vitraux, et quelque chose de beaucoup plus dégagé. Dans toutes les structures italiennes, vous avez presque toujours quelque chose, pas un désir, mais une affirmation de la muralité. Alors, est-ce que c'est pour garder de la fraîcheur? Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une sorte de culture de la surface et de la façade et de l'apparence, hein, du spectacle, hein, c'est peut-être assez clair. Y compris les clochers gothiques sont assez drôles, les campaniles gothiques, parce qu'ils inversent la logique, on va dire, française. En France, le clocher va être de plus en plus fin en haut, hein, alors pour des raisons simples, c'est aussi parce que plus c'est haut, moins il faut que ça soit lourd. Parce que si c'est très lourd en haut, il y a un problème de stabilité de l'édifice. Alors les Italiens, pour garder quand même la ligne verticale, eh bien ils vont évider en haut, donc la flèche est inversée. Vous avez plus de pierres en haut, vous avez de moins en moins de pierres en haut, vous avez plus en bas, mais ça se voit pas, ça se voit peu. C'est-à-dire qu'on garde quand même la verticalité, alors qu'en France, vous allez avoir des clochers pointus, puisque effectivement, plus c'est haut, plus ça va être fin. Mais là, vous avez toujours un équilibre subtil, et qui architecturellement se tient aussi très bien, la preuve, c'est que c'est encore là. Et puis le côté graphique du noir et blanc, il y a évidemment là une dimension... pictural, hein, puisque même dans les surfaces, c'est affirmé. Ça, c'est la cathédrale de Orvieto, où on voit la différence entre la façade qui est extrêmement recouverte de mosaïques et le côté qui est très sobre. Hein. Là encore, une muralité, quelque chose qui est très très simple, alors que la façade triomphe, elle est au sommet de la colline. Là. Si vous y êtes allé, il y a un funiculaire pour y monter. Et alors, à l'intérieur, il y a des œuvres sublimes que l'on verra plus tard d'ailleurs. Et voilà, alors ça c'est la cathédrale de Florence. Alors, la cathédrale de Florence est une sorte de synthèse de tout, hein, puisqu'il y a cercle, carré, triangle, quelques pinacles, des baies. Donc on est vraiment avec même des citations presque orientales, hein, dans les festons du sommet. Et la voilà de dessus. Alors là on est dans une sorte de pas de débauche, parce que c'est très mesuré, mais un morceau de bravoure de justement toutes ces combinaisons possibles. Hein. Et alors là, du parement, justement. Du parement. Alors, si vous voulez, ça c'est on va dire la tendance naturelle. Par rapport à ça, on voit que Alberti revient à des choses qui sont beaucoup plus mathématiques, beaucoup plus sobres. Mais voilà un petit peu les héritages. Alors l'autre héritage, hein, dans lequel quelqu'un comme Alberti peut... vivre, c'est aussi, par exemple, les grandes traditions, les grandes arcades. Alors, on va le voir aussi comment certains vont les prendre. Ça, justement, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est le Campo Santo à Pise. Parce qu'à Pise, il y a les trois bâtiments, baptistère, campanile, enfin, la tour et le dôme. Mais vous avez aussi le cimetière, dont les fresques justement sont tombées puis ont été ensuite recollées, ben voilà ce qu'on en sait en fait. C'est une très très grande galerie, et donc voilà ces fresques qui sont tombées pendant la guerre et sous lesquelles on a retrouvé les dessins. Voilà le Campo Santo, qui est donc un bâtiment fermé, une sorte de cloître cimetière, remarquablement ouvert sur l'intérieur, avec une galerie très très ample, très grande, et assez remarquable, de proportion. Et regardez, la taille, c'est impressionnant, la taille des personnages, est ouverte. Alors là, on a vraiment aussi les deux, quelque chose qui est très italien, hein, à la fois le grand mur peint de fresques, puis en même temps, les arcades et l'ouverture sur l'extérieur, la finesse. Là, on a tentation du mur, et en même temps, l'architecture ici, l'ouverture. Voilà d'autres photos du même Campo Santo. Et voilà encore. Et là, vous avez justement le baptistère que l'on voit derrière. Alors, il y a peu de gens qui y vont. Hein. Si vous allez à Pise, c'est comme tous les jours, on voit la tour, mais ils ne vont pas tellement voir ça, c'est assez tranquille. Bon, ça je passe, et ça je passe. Alors donc, vous imaginez bien, donc, l'héritage, si vous voulez, est quand même extrêmement riche. Hein. Et il y a une continuité. Par contre, de tout cet héritage, on voit bien que l'Alberti dégage et réussit quand même à faire fonctionner des principes qui lui sont propres et qui deviennent un langage constitué. Alors l'autre grande figure autour d'Alberti contemporain, qui va lui aussi travailler sur la perspective, sur la vision et sur l'optique, c'est Brunelleschi. Alors Brunelleschi. Brunelleschi. Alors Brunelleschi, c'est lui qui avait inventé ce dispositif dont je vous avais parlé, d'optique. Alors là, c'est une reconstitution. Mais du panneau sur lequel il avait peint le baptistère, il avait fait un petit trou, il plaçait sa tête derrière, il regardait dans un miroir, tout en regardant le vrai baptistère. Donc il voyait à la fois le baptistère qu'il avait peint reflété dans le miroir, et il pouvait effectivement se déplacer, le cadrer, en fonction de se regarder, devant le vrai baptistère. Alors, le baptistère, alors, c'est pas inintéressant, parce que le baptistère reste un repère justement de l'optique. Parce qu'il y a plusieurs choses qui font que le baptistère, c'est un phénomène, c'est un bâtiment à expérimenter en perspective de façon subtile, parce que c'est quand même justement un plan hexagonal. Et ensuite, vous avez à peu près toutes les formes. Vous avez donc l'hexagone, vous avez les carrés, vous avez les cercles, vous avez la décoration avec bicolore, avec les marbres foncés et les marbres clairs. Donc vous avez des éléments, des lignes perspectives, encore plus. Vous avez un problème qui est très intéressant dans le baptistère, c'est que les angles, comme il n'est pas cubique, ni entièrement circulaire, vous avez une façade qui va rester non déformée par la perspective, et vous avez les deux côtés qui sont à pan, qui aussi, on va voir des lignes de fuite qui vont être désignées de façon assez claire. C'est, quelque part, le baptistère, c'est aussi un volume, mais c'est aussi un dessin. Ce qui fait que pour comprendre la perspective, c'est un modèle remarquable. C'est beaucoup plus difficile, par exemple, de s'entraîner sur la cathédrale de Chartres. Parce que là, vous avez une multitude de trucs, c'est tout bête. Mais là, vous avez un modèle, au sens presque scientifique du terme, qui est absolument parfait pour expérimenter l'optique et l'inscription dans l'espace. Et les proportions. En hauteur, parce qu'en plus, il est aussi large que haut, donc les formes géométriques de base. Donc voilà, Brunelleschi va se servir du baptistère. Donc vous voyez que non seulement vous avez un héritage, on va dire, architectural, mais que même les avancées de perspective vont se faire à partir de bâtiments et de monuments qui sont des monuments anciens, romans, pré-romans, gothiques. Mais donc les Italiens s'appuient complètement sur leur passé dans une continuité remarquable. Ils font évoluer de l'intérieur, vraiment, tout leur patrimoine architectural. Ce qui fait d'ailleurs la génie des cellules italiennes aussi, c'est que, bon, on nage là-dedans, quoi. Alors, Brunelleschi. Voilà, alors, lui aussi s'entraîne, on va dire, à partir de choses assez simples, hein. Ce sont les grandes arcades, alors il reprend le principe d'arcade, ça c'est l'hôpital à Florence, hein, l'hôpital des Innocents, hein, des Saints Innocents, c'est une grande cour dans laquelle vous avez une grande allée couverte, dans laquelle effectivement, alors là c'est très très simple, le principe décoratif, cette fois-ci c'est exclusivement le cercle carré, hein, cercle carré, toc 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 toc. Alors quand même là-dedans, vous avez une chose qui est importante sur l'hôpital et sur la cité, sur la ville, c'est que la cité et la ville, ça va être d'abord les monuments à la gloire, là, l'empereur, Dieu, les baptistères, etc., c'est des palais, mais aussi la ville elle-même, les places. C'est-à-dire que c'est aussi quelque chose qui est un vivre ensemble. Et la cité, on viendra sur la notion de cité idéale, qui aura une importance très grande. Alors voilà quelques détails. Hein, voilà encore. Alors, il va aussi concevoir un petit, une petite façade, justement, pour... alors, attendez. C'est la chapelle des Pazzi, c'est-à-dire les fous, à Santa Croce. Donc, Santa Croce, c'est l'église dans laquelle il est franciscain. Et vous avez aussi cette petite chapelle qui est une sorte de petit bijou de proportion. Mais c'est pour ça que je vous ai montré les modèles précédents. Vous voyez que c'est assez proche, finalement, des églises pré-romanes, hein, ou de l'époque constantinienne, qu'on pouvait trouver à Rome. C'est-à-dire un tambour, et puis des tympans, des avancées, dans lequel on retrouve aussi une mémoire aussi du Panthéon de Rome, avec l'avancée avec le porche, avec les colonnes, et derrière, le tambour avec une tentative de coupole, comme par ici, avec un tambour avec des oculi, etc. Et puis une sorte de loggia, hein, qui anime une façade qui sinon serait plate, et dans laquelle vous avez une sobriété. Là, on n'est plus dans les décors noirs, blancs, structures, etc. La beauté du bâtiment vient de ses proportions. Ça, c'est quelque chose qui est proche aussi de la façade de Saint-André de Mantoue. Là encore, vous voyez ce jeu de rythme et de nombre, hein, c'est quelque chose qui est très clair chez Brunelleschi. Et voilà les photos un peu. Alors, c'est pas spectaculaire, parce qu'effectivement, là, ces artistes-là vont avoir la conscience que la beauté ne va pas être dans le spectacle, avec de décoration ou de jeu comme ça, de virtuosité, mais au contraire dans la rigueur et dans les proportions. Et là, on arrive à quelque chose, alors, pour être pédant, etc., d'apollinien ou de platonicien, c'est-à-dire justement la beauté va venir des idées pures. Ça, c'est très clair chez les architectes de la Renaissance italienne, de cette première Renaissance, oui.
Peut-être qu'on ne leur donne pas aussi les moyens de faire plus.
Oh si, parce qu'à Florence, à cette époque-là, les Médicis, Florence, c'est l'argent ruisselle, comme dirait l'autre. Il ruisselle nettement. D'ailleurs, on va voir que Brunelleschi, alors ça je passe un peu, c'est lui justement, qui, à propos d'argent, qui va concevoir la coupole de Santa Maria dei Fiori, donc la cathédrale de Florence. Parce que vous aviez déjà une nef qui était très grande, qui était un peu en croix, vous aviez le campanile, vous aviez le baptistère, et vous aviez une sorte de grande nef qui était un peu mal proportionnée, puisqu'ils n'avaient pas réussi à la couvrir. En plus, comme la croisée de transept sur laquelle devait être la coupole était très très grande, il y avait plein d'architectes qui s'étaient mis en, qui avaient eu comme programme de la couvrir, et personne ne réussissait, c'était trop compliqué, trop vaste. C'est-à-dire que la portée, si vous voulez, de la coupole était tellement vaste que personne n'ait réussi à concevoir les arcs pour faire les échafaudages intérieurs et les principes justement de plein cintre qui auraient permis de construire la coupole. Et Brunelleschi, alors j'ai jamais très bien compris, mais enfin je vais quand même vous le dire ce que j'ai lu. Brunelleschi va inventer un système absolument extraordinaire que j'ai jamais compris, double coupole, enfin une première coupole va être l'échafaudage de la deuxième coupole en gros. Donc si vous voulez, ça va être une sorte de construction presque tournante. Je vais vous montrer quelques schémas. Il va donc réussir à prouver qu'on peut construire une coupole extrêmement vaste, la plus grande coupole qui ait jamais été construite, plus grande que celle du Panthéon romain, justement, avec des techniques de construction et une intelligence de bâtisseur qui est assez remarquable et qui sera effectivement donc sa preuve. Donc on voit que là, il va avoir la confiance du personnage. Alors il y a des maquettes, etc. Alors, des dessins de Brunelleschi. Alors c'est gigantesque, hein, monumentale. Hein. Et alors, évidemment, elle obéit à des proportions. Ça, ce sont des études qui font que on a une sorte d'arc brisé sur un coup en plan comme ça, hein, en élévation, mais qui correspond effectivement à la rencontre de deux cercles. Et voilà les dessins de Brunelleschi. Alors, le principe, c'est d'avoir fait, je crois, une première coupole intérieure avec des nervures. Ainsi, et à partir de ces nervures, construire un système tournant. Alors, c'est des escaliers, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, on peut monter, on tourne à l'intérieur, entre les deux coupoles, vous avez une sorte de structure assez remarquable, et vous tournez en spirale, et vous arrivez au sommet sur la lanterne, qui est une sorte de réminiscence de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, voilà, c'est ce que je vous dis. Alors, là, vous avez la structure intérieure, ce sont une espèce de grandes nervures, des grands faisceaux. Et sur ces faisceaux-là, on va construire des structures horizontales, mais en fait en spirale, qui vont tourner tout autour. Et là, vous avez justement le couloir hein, dans lequel on peut... Là, vous avez des portes, mais ça vous donne une impression d'échelle aussi. Hein. Et là, vous avez des petites ouvertures qui éclairent justement les coursives. Hein. Et on arrive au sommet de la lanterne. La lanterne elle-même qui va capter la lumière et éclairer l'intérieur. Donc, c'est une combinaison de multiples influences. À la fois, il y a un arc brisé, à la fois, c'est une coupole, il y a des références à la lanterne, des petites structures qu'on trouvait auparavant. Donc, alors, c'est une prouesse, ça a été salué par tout le monde. Alors, voilà un petit peu les... Et les échafaudages intérieurs qui permettaient effectivement de limiter, y compris le coût, je crois, justement, à propos d'argent, ça ruisselait, mais il fallait quand même bien l'utiliser. Et donc... Alors, il faudrait peut-être un architecte spécialiste pour nous expliquer tout dans le détail. Hein. Et vous avez vu aussi d'ailleurs que la structure de la base de la coupole reste quand même à plan coupé. Hein. Alors, voilà. Et si un jour vous y allez, je vous incite à aller au sommet, si vous n'avez pas trop de vertige. Il y a une vision d'abord de l'intérieur, c'est qu'on voit le bas de la cathédrale qui est absolument vertigineuse, et on voit Florence de façon remarquable. Et puis, on sent l'architecture, on est dans l'architecture, c'est vraiment prodigieux. Alors, d'autres coupoles, là, justement, ça c'est dans l'histoire de l'art, vous avez des coupoles, celle justement du Panthéon, celle de Sainte-Sophie, alors ça, je ne sais pas laquelle, celle de Florence, puis ensuite vous avez celle de Saint-Pierre, et ensuite, bon, une fois qu'on a Florence et Saint-Pierre de Rome, on peut dire que la coupole a été retrouvée. Alors, ça a été un fait marquant dans l'histoire de l'art et de l'architecture, c'est la première fois qu'on réussit à faire quelque chose de mieux que les grands ancêtres romains. C'est la plus grande coupole après celle du Panthéon. Et donc, si vous voulez, à partir de là, ça va, quoi. Ils se sont dit, bon, ben, on a réussi non seulement à faire mieux, mais plus complexe, plus ambitieux, plus grand, et donc, on a dépassé les grands ancêtres de l'Antiquité romaine. Et donc, si vous voulez, on est là, vraiment, dans un élément marquant de l'histoire de la Renaissance. Alors, voilà, bon, d'autres plans et coupes. Alors, vous voyez, la nef, hein, et la coupole, là. Et toutes les explications, je passe. Alors voilà, quelques explications aussi de cette espèce de structure spiralée qui consolide aussi la coupole. Mais je vous dis, j'ai toujours pas réussi à comprendre le truc. Alors voilà ce que c'était avant la construction de la coupole. Si vous aviez le baptistère et l'idée, c'était entièrement de rénover, donc d'agrandir, c'est en plusieurs étapes, ça c'est la période pré-romane. Mais il y avait toujours eu une église, hein, mais elle a vécu plusieurs périodes, évidemment. Pourquoi je... Ah ! Ah, mais c'est que peut-être je suis arrivé au bout, quoi. Ah, bah oui, tout simplement. Alors, donc Brunelleschi, vous voyez, c'est quelqu'un qui marque le temps, en plus d'être sculpteur, peintre, dessinateur. Enfin, il est surtout connu, évidemment, pour ses structures et cette coupole, hein, qui est un fait marquant. Alors, un autre architecte qui est à peu près contemporain, qui lui aussi va marquer l'histoire de l'art. En plus, il se trouve, et je reparlerai plus tard, que c'est le tonton, l'oncle de Raphaël, le peintre. Hein, donc, c'est Bramante, Donato Bramante, B-R-A-M-A-N-T-E. Alors, pas de blague bête, Bramantombe, mais bon. Excusez-moi. Alors, vous voyez que Bramante aussi est un architecte qui va être un architecte d'église, mais aussi de place et de cité et de ville. Hein, donc, on voit bien que là, il pense l'église dans la cité, toutes ces choses-là, c'est quelque chose. C'est, en fait, non seulement l'église est une sorte de bâtiment, est une sorte de corps, mais c'est aussi un corps dans un corps plus vaste, c'est la cité, etc. etc. Alors, on verra plus tard les implications. Alors, Bramante, vous avez encore cette place de Vigevano, alors je ne connaissais même pas le nom de la ville, sur Bramante, je me dis, wow, c'est où ça? Et vous avez une place entière conçue par Bramante qui est d'une proportion et d'une harmonie remarquable. Alors là aussi dans la simplicité. Donc Bramante, architecte de ville, architecte aussi, alors il est connu, alors justement parce que lui il va ramener à Rome, c'est lui qui a fait ce petit temple Pietro, le petit temple de Bramante qui est dans Rome, et en 1502, donc. oser construire à Rome, et alors en plus après ils vont s'attaquer à Saint-Pierre de Rome, c'est-à-dire que Brabant sera un des architectes qui va essayer de construire le nouveau Saint-Pierre de Rome, parce que Rome, il se sentait un peu minable, si vous voulez, comparé à Venise, comparé à Florence, à toutes ces villes-là. Ils étaient normalement la capitale de la chrétienté, mais Saint-Pierre était encore une sorte de vieille basilique romaine avec un toit en bois, très grande, mais qui manquait d'allure et de classe. Elle n'avait pas encore été retravaillée. Donc, c'est un chantier prodigieux dans lequel beaucoup de grands architectes, dont Bramante, vont être. Et Bramante, d'ailleurs, s'inspirera de Saint-André de Mantoue pour concevoir Saint-Pierre de Rome. Et ensuite, Michel-Ange va se greffer dessus, puis ensuite le Bernin, etc. Ça va être un chantier de prestige, évidemment. Donc, une des premières réapparitions de la Renaissance au cœur de la cité romaine, de la grande... Et c'est ce petit temple romain dans lequel on retrouve toujours le tambour, la lanterne, le cercle et le carré articulé, les colonnades, etc. Alors voilà des dessins qui sont justement faits par Bramante avec un travail de lumière, hein, c'est un dessin de l'architecte lui-même, donc on voit qu'il y a une pensée du volume, hein, et on retrouve des citations, comme par exemple justement le cercle dans le carré, etc. Et voilà le petit temple, qui est haut, à l'intérieur d'une cour, hein, donc là aussi il y a une articulation très belle avec le cadre, hein, c'est que vous avez une mise en scène du bâtiment. Alors la scénographie de l'architecture, c'est aussi quelque chose qui est conçu notamment à la Renaissance. C'est-à-dire que le bâtiment est vu dans une place, est vu, et la ville elle-même, les rues, les places, sont aussi comme des mises en scène au sens strict de certains bijoux, de certains morceaux de bravoure, que sont les temples, les palais, etc. Et donc on va s'approcher d'eux pour que la pluie soit révélée. Et souvent avec une sorte de contrepoint. Dans le carré, vous aurez un cercle, dans le cercle, vous aurez un carré, etc. Et vous aurez une... Et alors, la perspective va les aider beaucoup aussi avec ça. C'est-à-dire de la proportion. Ça peut être loin, mais c'est quand même accrocher le regard. Donc, l'idée aussi, c'est pas forcément de s'imposer tout de suite. On peut aller vers quelque chose qui semble un peu loin, puisqu'on peut se projeter au sens strict. Alors, Bramante est aussi l'auteur, non pas de la nef principale de cette église qui est à Milan, hein, Santa Maria delle Grazie et Santa Maria de Grazie de Camilan, mais surtout du chevet. Alors là où c'est quelque chose, on va dire, de moins sobre, hein, c'est une sorte de combinaison de briques, de plâtre, de cercles et de carrés, dans lequel il s'est laissé aller un petit peu un vocabulaire nouveau, mais souvent un plan centré, tout d'un coup cette coupole écrase le reste. Donc voilà. Mais, alors moi j'ai jamais vu en vrai, mais vous retrouvez aussi le vocabulaire carré-cercle dans le plan comme dans l'élévation. Et ça je passe aussi, et voilà encore. Et vous voyez même que le cercle est affirmé. Alors, là, de façon un petit peu lourde, comme un motif purement décoratif. Il n'a aucune fonction, c'est même pas une arcade, c'est même pas une voûte. C'est un motif purement décoratif. Bon, ça je passe aussi. Donc Bramante, qu'on retrouvera plus tard d'ailleurs, quand on verra Raphaël. Alors, je continue la balade. Alors, justement, j'arrive à cette idée de la cité idéale. La cité idéale, au départ, d'ailleurs, c'est un projet théorique qui s'est lié. Alors, on est à la même époque de l'utopie de Thomas More, hein, c'est vraiment cette idée-là. En Angleterre, cette idée de construire, on avait vu avec le bon et le mauvais gouvernement, c'était des idées de, on va dire, de science politique, une façon de penser la cité, pas uniquement en termes de ville, mais de territoire, de zone, hein, dans lesquelles une humanité pourrait vivre de façon harmonieuse, avec effectivement un bon gouvernement, une harmonie entre les différentes fonctions dans la ville, mais ça va se traduire aussi par des bâtiments. C'est-à-dire qu'avec la perspective bien maîtrisée depuis l'Alberti, on peut faire des projets, on peut montrer des sortes de maquettes visuelles, visibles, on peut faire désirer la cité. C'est-à-dire que comme dans un texte, on va la faire désirer, eh bien la peinture sert aussi à se projeter dans un futur et imaginer des cités idéales, puisque la perspective permet de représenter parfaitement, plus l'expérience que l'on a. Vous avez dans ces peintures-là, celle-ci est attribuée à Piero della Francesca, Voilà. Celle-ci, sans doute, a un autre artiste qui s'appelle Fra Carnevale. Et vous aviez donc trois peintures de cité idéale qui, normalement, devaient fonctionner ensemble. Ce sont ces trois-là. Hein. Celle-ci. Celle-ci. Hein, puis une autre. Dans laquelle vous avez retrouvé, effectivement, des choses qu'on a déjà vues dans le monde réel. Mais là, cette idée de construire un monde parfait, dans lequel vous avez des références, y compris au passé, romain, chrétien, et vous avez des variations, toujours, sur cercle et carré, cube et sphère, cylindre, etc., volume, avec des proportions aussi en hauteur. Et alors là, il y a quand même quelque chose qui est assez drôle dans ces cités idéales, que ce soit ce modèle-là, par exemple, ou celui-ci, où là, vous avez le cirque, le baptistère et l'arc de triomphe, qui sont très clairement des références à un passé commun de la tradition italienne, depuis l'Antiquité romaine jusqu'au Moyen-Âge chrétien, on va dire, hein, en passant par l'articulation des empereurs romains chrétiens, les arcs de triomphe, hein, comme celui-ci. Et vous avez cette idée qu'on peut continuer, donc, avec aussi un jeu sur la perspective qui est vachement intéressant, parce que c'est loin, donc ça peut être soit le projet, soit l'origine. Soit on peut venir du lointain, se rapprocher du premier plan, soit partir du premier plan pour aller vers le lointain. Donc vous avez aussi, la perspective permet un dosage, c'est-à-dire qu'on fait un dialogue dans l'espace. Ce qui compte, ce n'est pas uniquement le premier plan. Et vous voyez aussi ce que je vous disais, c'est la scénographie, comment est-ce qu'on peut penser une scénographie. C'est-à-dire une place devient comme une scène de théâtre, un coup le bâtiment devient une sorte d'acteur ou de personnage de la ville. Donc la ville, c'est vraiment un ensemble. Et chose assez étonnante aussi, tout est minéral, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de plante, puisque les humains sont capables, finalement, sont tellement forts, qu'ils sont capables de maîtriser et de dominer la nature et d'ordonner la nature. La seule nature qui va rester, à la limite, c'est le ciel, on laisse effectivement à sa place, et dans un monde parfaitement ordonné, alors vous avez des lointains, et comme par exemple ici, vous avez aussi le porche, hein, là vous avez une sorte de variation. C'est une sorte de double de la précédente. Donc c'est et ces trois panneaux constituent donc un modèle remarquable. Attendez, non, c'est un montage. Ça, c'est celui-ci, le troisième, dans lequel effectivement vous avez. Ben, alors là, la désignation du point de fuite, vous voyez que la perspective, à la fois, c'est un mode de représentation du réel, mais c'est aussi une façon de construire une utopie, hein, et qui peut servir de modèle. Alors. Cette idée de la cité idéale, ce qui est assez intéressant, outre ces trois panneaux, alors bon, je passe un petit peu là-dessus, c'est qu'on va la retrouver, par exemple, dans certains modèles, je repasserai plus tard, de peintures, comme par exemple Pérugin, quand on fera Raphaël, on reviendra sur lui, dans lequel c'est une manière de représenter, par exemple, Jérusalem, hein, une sorte de Jérusalem avec Jésus donnant les clés à Saint-Pierre, les clés du temple. Alors, temple symbolique et temple réel, et donc vous voyez une nouvelle fois le christianisme conçu et Jésus comme un constructeur de cité, de temple, un peu comme Quirinal et Romulus, hein, vous avez vraiment cette idée qu'on va construire un vrai monde réel et ordonné aussi. Donc la cité idéale, il y a un côté renaissant, mais c'est aussi christiano-compatible parfaitement, puisque le christianisme est vu comme quelque chose qui permet d'harmoniser le monde. Et Jésus donne les clés à Saint-Pierre, Saint-Pierre, Rome, etc., etc. Donc vous avez vraiment là une continuité parfaite. Et la perspective qui permet de faire référence aux arcs de triomphe, au temple ici. Alors là, vous avez plein de références. Vous avez le porche qui évoque le Panthéon et les temples romains. Vous avez le plan hexagonal qui évoque le baptistère, ou hexagonal, ou plutôt octogonal. Et vous avez ici la coupole qui évoque la coupole de Florence. Donc, là encore, une sorte de synthèse de toutes ces tendances. Alors, cette peinture est dans la chapelle Sixtine, la partie basse de la chapelle Sixtine. Alors, ce modèle du temple, là, on y reviendra, on va le retrouver très souvent, et on le retrouve chez Pérugin, chez Raphaël, chez Pinturicchio, donc c'est pas du tout... Alors, on le retrouve associé à plusieurs idées, soit ça peut être Jésus parmi les docteurs, hein, qui tout d'un coup est une sorte de... Jésus, ben c'est un petit juif, hein, qui arrive chez les rabbins, à la synagogue, chez les savants, et puis tout à coup, donc il vient de là-bas, mais il se rapproche de nous. Et en même temps, il est associé, il est seul dans cette structure-là. Donc à chaque fois, vous avez soit Jésus chez les docteurs, soit donnant les clés, soit, ben attendez, ici le mariage de la Vierge. Hein, c'est-à-dire que vous allez avoir trouvé ce modèle d'une cité soit en peinture, soit dans la peinture religieuse, où vous avez toujours Joseph et Marie qui, en se mariant, vont permettre d'aller au-delà du temple de Jérusalem vers le christianisme, donc de dépasser le temple qui est à la fois une sorte de modèle d'origine. Alors on en vient, mais il faut le dépasser. Donc vous avez la perspective sert aussi de point d'origine et point de fuite. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est très intelligent et qui est utilisé de façon remarquable par Perugia. Vous avez aussi cercle, triangle et carré, triangle équilatéral. Et là, on retrouve que dans la peinture, vous avez géométrie plane et géométrie dans l'espace. Et là, c'est des choses sur lesquelles on viendra. Alors, je voulais vous montrer aussi, à propos de cité idéale, pour revenir plus à l'architecture, ça je repasserai, notre ami le fameux, enfin notre ami le plus connu des plus connus, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, attendez, pourquoi j'ai ça ici? Ça c'est autre chose, je voulais vous montrer ça plus tard, pourquoi il est là? Non, il y a un petit bug. Je ne sais pas si vous savez, mais Léonard de Vinci avait prévu de faire... Alors ça, c'est une maquette qui n'a pas été faite par Léonard, mais à partir de ses croquis. Vous avez ici cette lumière. Et vous avez donc les projets de Léonard de Vinci. Quand il est venu en France, ramené par, dans ses bagages par François Ier, avait anticipé et voulait faire deux... Voilà. Et je ne sais pas si vous savez où, c'est du teasing. C'est Romorantin. Romorantin-Lanthenay, centre de la France, qui devait être le centre du monde chrétien, et avec en fait Léonard de Vinci et François Ier associés à la fois la tradition religieuse, mais François Ier, l'Italie est dévorée par des ambitions territoriales. La seule autorité en Italie homogène, c'est le pape. En France, c'est le roi. Et donc vous avez aussi cette idée qu'en Italie, le pape, ça ne suffit pas, parce que c'est une autorité spirituelle, mais au niveau du territoire, il faut un centre à la chrétienté, et ce centre à la chrétienté, en tant qu'empire, en tant qu'empire idéal, c'est la France. Et en France, c'est le centre de la France. Alors, c'est assez drôle, parce qu'il y a déjà l'idée du centre de la France. Alors que... Et Romorantin, alors c'est pas très loin d'Amboise, où il était, et Léonard de Vinci, en faisant des calculs, etc., pense que Romorantin peut être le centre de, non seulement une cité, mais un royaume idéal, dans lequel, effectivement, vous allez avoir des modèles. On pense que ces idées pour Chambord, on va les reprendre, mais en les parties basses, seront utilisés pour Chambord. Ça, ce sont des vues, évidemment, infographiques, mais avec y compris les bâtiments et une sorte de temple, hein, avec voilà les croquis pour la cité idéale de Romorantin, fait par Léonard de Vinci, hein, avec, et on va retrouver aussi tout un vocabulaire assez commun. On va retrouver les arcades. Alors, avec Léonard de Vinci, vous avez tout un travail sur l'eau, hein, évidemment, puisque ça, c'est un de ses grands principes, mais qui va reprendre aussi dans les grandes traditions romaines, c'est la maîtrise des eaux, des égouts, des voies d'eau, des circulations, etc. C'est un très grand savant en termes d'hydrographie, Léonard de Vinci, parce qu'il a détourné des canaux, etc. Donc c'est quelqu'un qui est là-dessus aussi très fort, entre autres. Et voilà certains de ses schémas. Alors, les cités idéales, ben, il n'y en aura pas eu. En fait, Rome, ça sera évidemment une idée, mais sauf que Rome, c'est une cité où les pouvoirs sont fractionnés, il n'y a pas de prince de Rome, si vous voulez, alors c'est surtout le pape, donc il y a des rivalités territoriales. Le seul endroit qu'on dit être la traduction architecturale de la cité idéale, c'est la petite ville de Pienza, je ne sais pas si vous connaissez, Pienza, donc en Toscane, dans laquelle on va retrouver des bâtiments, mais évidemment, c'est un peu décevant, enfin, sauf que c'est super comme endroit, mais d'abord c'est sur une colline, donc ça devrait plutôt être une plaine, donc c'est un peu étroit, et la place de Pienza, c'est ce qui s'approcherait le plus, dans lequel on va retrouver des bâtiments à peu près équilibrés, qui sont proches de justement des modèles que je vous ai montrés, des modèles peints de tout à l'heure. Mais il n'y a pas le recul suffisant pour avoir cette espèce de grande scénographie. Hein. Par contre, ce que l'on voit à Pienza, c'est la sobriété aussi. C'est que, comme je vous le disais, plus on va vers un idéal géométrique et mathématique, moins on a besoin de faire de décors, moins on a besoin de faire de l'architecture, de moulures, de morceaux de bravoure, etc. On est vraiment dans un principe d'harmonie pure. Hein, et ce qu'on voit très bien là, et même dans le temple, dans le palais qui est juste à côté, celui-ci, où tout est une question, vous avez vu, là la pierre est brute, elle est nue, il n'y a pas de stuc, il n'y a pas de peinture, il n'y a pas de bichromie, On est par contre dans des jeux avec les pilastres et les arcs plein-cintres, et puis l'appareillage régulier des sous-bassements, et puis les proportions progressives, hein, si, ça c'est important, les proportions du bas en haut, qui ne sont pas les mêmes. Alors ça, on verra plus tard aussi le nombre d'or, et c'est, comment est-ce qu'on peut fractionner justement une surface pour qu'elle soit harmonieuse, symétrique et en même temps dynamique. Et ça, ça serait un des grands enjeux, d'ailleurs, que l'on va voir très bientôt, c'est la question justement du nombre d'or. Donc, juste une chose, hein, cette sobriété liée aux proportions, ça va avoir une importance fondamentale, puisque quelqu'un comme Le Corbusier est complètement dans cet esprit-là. Que ce soit la cité radieuse, que ce soit le plan voisin, que ce soit le modulor, où la sobriété est uniquement donnée dans les proportions, et le dépouillement des façades, c'est quelque chose qui, en fait, s'exprime très clairement à la Renaissance, mais sera repris plus tard. Alors, je termine avec quelques suites, mais ça va être assez rapide. Quelques suites, comme par exemple des éléments qui sont intéressants, comme le palais du thé à Mantoue, hein, dans lequel on retrouve à peu près les mêmes choses, le palazzo del thé à Mantoue, dans lequel vous avez les fresques remarquables qu'on verra plus tard de Jules Romain. Hein. Mais là, vous voyez aussi, alors perspective, scénographie, arcade, et puis là, vous avez un jeu sur les colonnes et les rythmes, avec un dépouillement. Hein, pourtant, c'est un palais de princier. Hein. Vous avez aussi des bâtiments que l'on va voir assez souvent comme à Côme, ici. Ça, c'est dans le désordre, ça, c'est le palais du thé. Alors, voilà le palais du thé. Hein. Et vous voyez bien aussi l'approche. Alors ça, plus tard, ça sera repris par Palladio, puis ensuite à Versailles. Mais l'idée du parc, du palais, la scénographie, c'est aussi quelque chose qui est né de la perspective. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'un dessin en plan, vu en perspective, les allées vont être des choses qui vont dessiner, désigner, au sens strict, le bâtiment. Donc il y a une approche, la façon dont on peut s'approcher hein, du bâtiment central, se retourner, voir d'où l'on vient, etc. Cercle et carré qui se font face, dans le plan comme dans les élévations. Donc si vous allez à Mantoue, je vous conseille d'aller là, y compris les intérieurs et les fresques intérieures sont remarquables. Vous avez à Montepulciano ce bâtiment typique de la Renaissance, dans lequel on va trouver encore plan centré, coupole, lanterne et effectivement tympan. Voilà, plan croix, le Tempietto rose. Et alors là, il y a un architecte qui s'appelle Serlio. On verra plus tard avec Palladio les Serliennes, justement, qui sont inspirées de lui. Qui est aussi un architecte qui va théoriser et concevoir une multitude de plans et de palais. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec les imprimeries aussi, vous avez des architectes qui vont faire des projets, mais qui ne sont pas forcément réalisés. Donc on est aussi dans cette idée du projection. Le dessin, la perspective permet de se projeter là-dedans. Et il se trouve que Serlio, ça je ne le savais pas, et j'ai découvert en cherchant, alors ça c'est encore à Todi, hein. Mais Serlio, c'est aussi lui qui a conçu ce château en France de Ancy-le-Franc, qui servira de modèle ensuite vraiment à la version Renaissance de Fontainebleau. Ancy-le-Franc, c'est pas très loin, c'est en Bourgogne. Hein. Et en plus, je crois qu'à l'intérieur, il y a des fresques très belles. Hein. Et là, on a un château qui est complètement considéré par ces principes-là. Alors, j'ai pas le temps de terminer, non. Ben, la prochaine fois, on fera une toute petite visite à Venise, et puis on commencera... on commencera après ça, c'est quoi déjà? Ah ben oui, on va faire beaucoup de nombre d'or avec Carpaccio, Saint-Augustin, Raphaël, etc. Et on reprendra l'architecture plus tard avec Palladio. Hein, mais là, on est obligé de... Tout ça, ça se passe 15e, 16e. Hein. C'est dense. Voilà.